OK, on va continuer notre étude sur le survol des 66 livres de la Bible. On est rendu au livre d'Esther. Alors, ce soir, on va faire Esther, la première partie. Et comme on le fait toujours, notre première étude d'un livre comprend toujours à peu près la même structure. Donc, l'arrière-plan du livre, le but principal du livre d'Esther, son plan, les thèmes majeurs qu'il y a dans le livre, les personnages clés, les versets clés, les leçons pour le peuple de Dieu d'alors et le peuple de Dieu d'aujourd'hui, et la place et la présence de Jésus-Christ. Alors, dans les premières leçons de tous les livres, on procède toujours de cette façon-là. Dans le deuxième, c'est un peu différent. On étudie le livre, mais sous un autre angle. Alors, on va commencer par l'arrière-plan. On ne connaît pas l'auteur du livre d'Esther, même si un détail du livre pourrait désigner Mardoché comme étant l'historien du livre, dans le verset 20 du chapitre 9. Après tout, il n'était pas seulement témoin oculaire des événements qui se produisirent, mais il joua un rôle essentiel. S'il n'a pas lui-même relaté cette histoire, l'auteur a eu accès aux annales personnelles de Mardoché, ainsi qu'aux chroniques des rois, des Mèdes et des Perses. Le nom de l'auteur humain n'est pas tellement important. Ce qui importe le plus, c'est les chrétiens attachés à la Bible. L'auteur humain, c'est pas plus important qu'il faut. Il ne fait aucun doute que le livre peut revendiquer la paternité littérale divine. Maintenant, on parle de la date de composition. Les événements qui sont décrits dans le livre se sont déroulés entre 483 et 473 avant Jésus-Christ, donc sur une période de 10 ans. Ils s'insèrent entre la période du retour au pays du premier contingent d'exilés sous la conduite de Zorobabel et du retour du deuxième contingent d'exilés sous la conduite d'Esdras. Le fait que l'auteur parle du roi Assuérus au passé suggère que le livre aurait pu être écrit durant le règne d'Artaxerxès, donc qui a vécu entre 465 et 424 avant Jésus-Christ. La période historique est le cadre du livre. Alors, les événements du livre d'Esther arrivent pendant que les Juifs étaient en exil. Aux alentours du milieu du 5e siècle avant Jésus-Christ, un groupe de Juifs retournèrent à Jérusalem. Alors là-dedans, on a raconté déjà ces histoires-là dans Esdras et dans Néhémie, qu'on a déjà regardé. Cependant, la majorité des Juifs demeurèrent à Babylone et en Perse. Ceci est relaté dans les livres d'Esther et de Daniel. Le livre d'Esther est remarquable par le fait que les références directes à Dieu dans le livre sont absentes. Ça, c'est une des choses intéressantes du livre d'Esther. C'est que si on regarde des références directes de Dieu, il n'y en a presque pas. Cependant, ce qu'on voit, c'est sa main agissante à l'intérieur de tout le livre. Alors, le peuple de Dieu a été pendant des décennies dans un environnement religieux hostile. Pourquoi? Parce qu'il était déjà en exil. Ils ont été là combien de temps? 70 ans. Donc là, le Seigneur permettait qu'ils reviennent. Et quelque part, il avait été pendant longtemps dans un environnement religieux hostile, loin de la terre promise et sans un temple. Il se devait maintenant d'apprendre comment demeurer le peuple de Dieu, loin de leur pays, sans un temple et entouré par une multitude de personnes et avec des croyances diverses dès lors. On parle du but principal du livre. Le livre d'Esther est l'histoire d'une orpheline, une femme juive, entraînée au milieu d'intrigues politiques et de jeux de pouvoir à la cour royale du roi perse à Suse. Même si le livre ne mentionne pas Dieu à aucun endroit dans le livre, nous voyons clairement sa main agissant secrètement dans le déroulement de toute l'histoire. Esther devint une reine et eut à faire des choix qui exigèrent d'elle beaucoup de courage et de foi. Le livre nous confirme avec assurance que Dieu est continuellement présent dans le monde et aussi lorsque nous souffrons. Il est intéressé à tout ce qui se passe et il est toujours prêt à agir. Le livre affirme fortement ce qui est mentionné dans le livre de Romains, chapitre 8, verset 28. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Un autre but important du livre est de nous rappeler l'origine de la fête du Purim et de sa célébration perpétuelle. La fête commémore la délivrance du peuple juif des plans diaboliques d'Aman qui avait voulu faire disparaître la race juive de la terre. Cette délivrance fut amenée par Dieu lui-même qui travaillait en coulisses. Par rapport à ça, j'ai quelque chose à vous raconter un petit peu. Quand j'avais étudié ce livre-là la première fois, j'avais été présenté à des références qui étaient en dehors du livre et en dehors des commentaires. En tout cas, un commentaire que j'avais trouvé, c'est que la fête de la Purim, c'est encore fêtée par les Juifs. C'est une fête que les Juifs se rappellent de cette époque-là, de la délivrance qu'ils ont eue, et à chaque année, ils fêtent la fête du Purim. Et les Juifs, dans plusieurs pays, à plusieurs endroits, il y a toujours eu des personnes qui ont voulu un peu faire l'équivalent de ce qu'Aman avait voulu faire à l'époque, soit faire disparaître complètement la race juive. Il y avait eu la même chose qui s'était produite en Russie. Mais ce qui est intéressant, c'est que le Seigneur a permis que les dates de délivrance, la date de délivrance qu'il y a eu quand ils ont été attaqués en Russie pour essayer de les faire disparaître aussi, parce que les Juifs sont allés en Russie, à un moment donné, il y a eu des problèmes, ils ont voulu les éliminer. Et ça donne la même date. Et je trouvais vraiment que c'était la signature de Dieu, comme Dieu faisait en sorte que la délivrance qui arrivait à une date bien précise au moment de la date du Purim, quand il y a un autre événement qui est arrivé des siècles et des siècles et des siècles plus tard, le Seigneur permettait que c'était la même date que la délivrance se produisait. Moi, je vois ça vraiment comme des clins d'œil de Dieu. Je trouve ça très intéressant, ce genre d'anecdote-là. Alors, à la page 3, vous avez aussi le plan du livre. C'est vraiment un petit plan très sommaire. Alors, on pourrait dire que le thème du livre, c'est que la providence de Dieu est certaine, quoique cachée. Parce que, comme on a dit tantôt, si vous cherchez dans le livre d'Esther une référence directe au mot « Dieu » ou au fait que Dieu intervient, c'est mentionné nulle part. Cependant, on voit par les événements que Dieu travaillait en coulisses pour faire arriver les événements en sorte que le peuple juif avait été protégé. Donc, la première idée, c'est que vraiment, il y a un trouble qui se produit du chapitre 1 jusqu'au chapitre 4 pour les Juifs. Et c'est à ce moment-là qu'arrive le choix d'Esther comme reine. On sait que la raison, c'est que Vashti, il y avait eu une grosse fête que le roi avait organisée. Et Vashti était très belle. Et le roi a voulu, il y avait eu des chefs de toutes les provinces qui était venu, c'était comme un gros party d'un très, très gros pays, 127 provinces, c'était gros, là. Tous les grands chefs étaient là, et lui, le roi, il était de bonne humeur, puis il a voulu aller chercher la reine, Vashti, pour la montrer aux gens, pour montrer comment elle était belle. Puis, elle n'a pas aimé ça, elle il a dit, « Non, je ne vais pas. » Fait qu'elle n'y a pas été. Mais là, elle a perdu son poste de reine. Et c'est là que la fille que Mardochée avait élevée, a été élevée au poste de reine. Et c'est ça que Dieu s'est servi pour sauver le peuple juif. Alors, on a vraiment le divorce de Vashti. On a le mariage d'Esther. Et après, à partir du chapitre 2 jusqu'au chapitre 4, on a l'élaboration du complot de Aman. Alors, on sait ce qui se passait. Mardochée était souvent à la porte. Il était un personnage important. Et quand Aman était rendu... Après le roi, il y avait Aman. Et Aman était un homme qui était orgueilleux. Et Mardochée, vu que c'était un juif, et qu'il ne voulait pas se Il ne voulait pas le saluer. Et il avait fait un complot pour faire disparaître. Non seulement il voulait pas juste se venger personnellement, mais il voulait faire disparaître la race juive au complet. Et il avait fait un plan pour ça, puis on voit... Et dans le deuxième point, on voit le triomphe des Juifs, à partir du chapitre 5 jusqu'au chapitre 10. Alors, le triomphe de Mardoché sur Aman. Alors, vous laisserez regarder le plan. Mais après ça, tu as le triomphe d'Israël sur les ennemis. On voit comment Dieu s'est servi de tous ces événements-là pour sauver le peuple juif qui aurait pu être complètement éliminé. Alors, on peut voir la main souveraine de Dieu sur les nations. Tout au long de l'histoire, Dieu a suscité une série de royaumes païens pour châtier son peuple à cause de sa rébellion et de son péché. Cinq grands empires ont ainsi affligé Israël durant la période de l'Ancien Testament jusqu'au jour du Nouveau Testament. On le sait, le Seigneur a souvent utilisé cette façon d'agir-là. Il utilisait les nations autour du peuple d'Israël quand ils étaient dans l'idolâtrie ou dans l'infidélité. Il se servait des nations pour les corriger. Alors, le premier grand empire fut l'Assyrie, avec sa capitale Ninive sur le Tigre. Il fut renversé par l'empire babylonien, dont la capitale était Babylone, sur l'Euphrate. Il y eut ensuite Cyrus de Perse, qui est le pays actuel, c'est l'Iran. Il conquit d'abord les Mèdes, fonda l'empire des Mèdes et des Perses, étendit son vaste royaume en triomphant de Nabuchodonosor de Babylone. Les Grecs bâtirent l'empire suivant sous Alexandre le Grand. Enfin, à l'époque néo-testamentaire, l'Empire romain devint la grande puissance mondiale. Alors, on voit qu'au cours de l'histoire, Dieu fait en sorte que les grandes nations qui dominent, ils changent. À un moment donné, oups, c'était les Mèdes et les Perses, donc oups, c'est les Babyloniens, puis donc oups, c'est les Assyriens. Puis le Seigneur a toujours permis ça au cours de l'histoire. Alors, le livre d'Esther parle des relations fidèles de Dieu avec son peuple à l'époque du grand empire perse. Les thèmes majeurs du livre sont les suivants. Dieu protège son peuple même lorsqu'il semble absent sur la scène. Des fois, on entend ça, des fois, on dit, Dieu, ce qui se passe, Dieu, on dirait que Dieu ne s'occupe plus de nous autres. Ben, une des leçons du livre, c'est que Dieu est toujours présent, même s'il a l'air, des fois, de ne pas être présent. Un autre thème majeur, c'est que Dieu bénit le courage et la fidélité de son peuple. Quand on regarde l'histoire d'Esther là-dedans, Esther, elle a eu un courage fou là, de faire ce qu'elle a fait, parce que si elle se présentait dans la cour intérieure pour voir le roi sans avoir été appelée, c'était la mort. Faire ça, là, c'était risquer ta vie. Elle a risqué sa vie pour essayer d'intercéder auprès du roi pour sauver la race juive. Alors, on sait que quand elle s'est présentée, il lui a tendu le sceptre d'or. En lui présentant le sceptre d'or, ça voulait dire qu'il lui pardonnait sa faute d'avoir été se présenter devant lui sans avoir été appelé. Alors, un autre thème majeur, c'est que Dieu est fidèle à ses promesses. Un quatrième, c'est que la méchanceté humaine est de la folie qui est toujours punie. Alors, à l'intérieur de ce livre-là, on voit qu'Aman, qui était déjà dans les... Il était l'être, après le roi, qui était le plus honoré, mais c'était pas encore assez. Il y avait un gars qui pliait pas le genou devant lui, puis ça, il était pas capable de le prendre. Alors, on voit que, dans sa folie, non seulement, on pourrait dire, il y aurait eu, normalement, l'idée de vouloir se venger de la personne de Mardoché. Non seulement il ne se contente pas de la marque de... Parce qu'il savait que Mardoché était juif, puis il savait que dans tout le royaume, il y avait beaucoup de juifs. Non seulement je vais avoir Mardoché, mais je vais faire tuer tout son peuple. Imaginez-vous. Alors on voit la folie de l'homme, je sais pas jusqu'où ça peut aller. Et on a aussi, bien entendu, dans le livre, l'origine de la fête des Purim, qui est une fête juive qui est encore fêtée aujourd'hui. Dans Esther 9, 24, ça dit « Car Aman, fils d'Amedata, la Gagite, ennemi de tous les Juifs, avait formé le projet de les faire périr, et il avait jeté le pur, c'est-à-dire le sort, afin de les saluer et de les détruire. Alors, quelques personnages clés du livre. Bien sûr, on a le roi Assuérus. Alors, selon les historiens, il serait le roi Xerxès, qui est le roi Assuérus en grec, qui aurait régné sur l'Empire perse de 485 à 465 avant Jésus-Christ. Il était un terrible despote, un débauché débridé, un passionné démentiel et un orgueilleux démesuré. Nous pouvons constater un peu son despotisme dans le fait suivant. Après qu'il eut fait construire un pont et que ce dernier fut détruit par une tempête, il commanda qu'on fouettât la mer de 300 coups et fit couper la tête aux travailleurs qui l'avaient construit. On a-tu une idée de la folie du gars, là? Faire fouetter la mer, ça prend un gars qui est disjoncté, comme on pourrait dire. Puis faire tuer des travailleurs qui ont fait ça, c'est à un moment donné, c'est quoi le rapport, là? En tout cas, on dit de lui qu'il était tellement plongé dans la sensualité et la débauche qu'il récompensait ceux qui inventaient de nouveaux vices. Alors, on a une idée du personnage. Et on a la reine Vashti. Son nom signifie « femme magnifique ». Elle perdit sa position de reine lorsqu'elle refusa d'obéir au roi en se présentant devant la cour du roi alors que les courtisans étaient ivres. Pas sûr, en tout cas. Esther. Ce nom perse lui fut donné par le roi à cause de sa beauté. Et le nom d'Esther signifie « étoile ». Son nom hébreu était Hadassa. On a cette information-là dans le verset 7 du chapitre 2, qui signifie « myrte » et qui est une herbe à feuillage toujours vert, à petites fleurs blanches d'une odeur agréable. Elle était orpheline et fut élevée par son cousin Mardoché. Elle joua un rôle primordial pour sauver son peuple de la destruction. Elle était courageuse et vertueuse. Mardoché. Il était fils de Jaïr, fils de Chiméi, fils de Kis, homme de Benjamin. Il était de la descendance de la première lignée royale d'Israël. Il éleva Hadassa, qui était la fille de son oncle. Mardoché l'adopta quand elle devint orpheline, de père et de mère. Esther suivit ses instructions lors des événements qui firent d'elle une reine de Perse. Mardoché informa le roi par Esther de l'imminence d'un attentat. Les deux conspirateurs furent exécutés. Le père adoptif d'Esther refusa de se prosterner, qui est un geste ordinaire de déférence devant Aman, qui était le favori du roi ou du souverain. Le motif probable de ce refus était probablement la bassesse de caractère d'Aman et aussi son origine. Il était un Amalécite. Et un Amalécite, il y avait eu déjà des conflits entre les Juifs et les Amalécites. On va voir les versets où que des vieux conflits de nations, des fois ça perdure dans le temps, un petit peu comme on voit les Israélites et les Palestiniens, c'est des affaires qui durent des siècles et des siècles et des siècles. Alors, Aman a voulu se venger du fait que Mardoché ne voulait pas le saluer. Il voulut se venger de cet affront en faisant périr Mardoché et tout le peuple juif. Alors, c'est un spécial. Alors, pour que les gens puissent comprendre un peu, il faut donner un petit peu quelques explications sur le conflit entre les Juifs et les Amalécites. Mardoché est présenté comme un Benjaminite du clan de Kis, père de Saül, tandis qu'Aman est un descendant d'Agag, le roi Amalécite contre lequel Saül avait combattu. C'est vieux, c'est des vieilles histoires, autrement dit. Dans Exode 17, l'histoire du conflit entre Israël et les Amalécites dure depuis l'époque de l'Exode. Moïse avait dit, dans Exode 17, verset 16, il dit, « Parce que la main a été levée sur le trône de l'Éternel, il y aura guerre de l'Éternel contre Amalek de génération en génération. » Imaginez-vous des affaires qui s'étaient passées des centaines et des centaines d'années avant. Il y avait encore l'animosité dans le cœur à la fois de ces deux hommes-là qui étaient des descendants. Alors, Israël avait été chargé de détruire les Amalécites à l'époque. Dans Deutéronome 25, versets 17 à 19, ça dit « Souviens-toi de ce que fit Amalek pendant la route lors de votre sortie d'Égypte, comment il te rencontra dans le chemin et sans aucune crainte de Dieu, tomba sur toi par en arrière, sur tous ceux qui se traînaient les derniers pendant que tu étais là et épuisé toi-même. Lorsque l'Éternel ton Dieu, après t'avoir délivré de tous les ennemis qui t'entourent, t'accordera du repos dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne en héritage et en propriété, tu effaceras la mémoire d'Amalek de dessous les cieux. Ne l'oublie point. » Il semble pas que Mardochée l'avait oublié. Alors c'était deux peuples qui étaient en conflit depuis des siècles et des siècles. Alors, Saül avait reçu de Dieu l'instruction de détruire les Amalécites dans 1 Samuel 15, mais il avait désobéi. L'incident qui eut lieu entre Saül, Agag et les Amalécites allait finalement expliquer la défaite de Saül et la disparition de sa dynastie. Ce conflit entre les descendants de Saül et d'Agag prolonge l'antipathie séculaire entre Israël et les Amalécites. De nombreux détails du récit d'Esther peuvent s'expliquer sur cette base. C'est cette vieille inimitié entre Israël et les Amalécites qui explique que Mardochée refuse de se prosterner devant Aman. Cette même inimitié explique aussi pourquoi Aman, dont la colère visait à l'origine le seul Mardochée, allait élargir son courroux en cherchant à détruire tous les Juifs une fois qu'il eut appris que Mardochée était juif. Vous, la vieille vengeance de génération en génération. On voit ça dans le livre, mais c'est intéressant, c'est parce que des fois, on a oublié ces événements-là dans Deutéronome ou dans Exode qui nous explique cette vieille haine, cette vieille inimitié-là, des fois, entre les deux peuples. Alors, on a Aman. Lui, Aman, était né de la lignée royale des Amalécites. Il avait été élevé par le roi de Perse à la plus haute charge officielle. Le juif Mardochée refusa délibérément de manifester à Aman le respect auquel il était habitué. Aman médita sa vengeance et trama non seulement la mort de Mardochée, mais celle de tous les Juifs de l'Empire. À l'instigation de Mardochée, Esther déjoua le plan d'Aman qui fut pendu ainsi que ses fils. Voyez-vous, il avait fait, je ne sais pas si vous vous souvenez de l'histoire, là, il avait fait un mot, puis il avait dit, on va les pendre à ce moment-là, puis en fin de compte, c'est lui et ses enfants qui sont morts là. Alors bien souvent, l'instrument, c'est que tu utilises pour te venger d'un autre, Dieu l'utilise pour te détruire toi-même. Alors, les versets clés, Esther 4, versets 13 à 16. Mardochée fit répondre à Esther, « Ne t'imagine pas que tu échapperas seul d'entre tous les Juifs parce que tu es dans la maison du roi. Car si tu te tais maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs. » Et toi et la maison de ton père, vous périrez. Et qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. Esther envoya dire à Mardochée, « Va, rassemble tous les Juifs qui se trouvent à Suse et jeûnez pour moi, sans manger ni boire pendant 3 jours, ni la nuit, ni le jour. Moi aussi je jeûnerai de même avec mes servantes. Puis, j'entrerai chez le roi, malgré la loi. Et si je dois périr, je périrai. » Ça prend du guts. T'es rendu reine, tu vis dans le luxe jusqu'aux oreilles. Puis faire un geste comme te présenter dans la cour du roi sans avoir été appelé. Le roi, s'il voulait, il disait « zigouille ». C'était le même à cette époque-là. Fait que ça prenait une femme courageuse parce qu'elle était prête à sacrifier sa propre vie pour essayer de sauver la vie du peuple juif dans l'ensemble du territoire de l'époque. Alors, les leçons qu'on peut retirer de cela aujourd'hui, bien sûr, pour le peuple de Dieu d'alors, Dieu avait promis d'être avec son peuple. Le livre d'Esther démontre que même si Dieu semble absent dans le récit, il est présent à travers les circonstances qu'il contrôle souverainement et il protège son peuple. Maintenant, quelles sont les leçons pour le peuple de Dieu d'aujourd'hui? Une des caractéristiques de la foi, c'est qu'elle est active. Dieu s'attend à ce que nous exercions notre foi, comme Esther l'a fait, et ceci plus particulièrement lors des temps de danger, d'incertitude et de souffrance. L'activité de la foi n'est pas mue par une foi aveugle, mais plutôt par une foi qui sait que Dieu est présent, puissant et prêt à agir pour nous. Alors, la place et la présence de Jésus-Christ dans le livre, même si Dieu n'est pas explicitement mentionné dans le livre d'Esther, sa présence est observable à travers toute l'histoire. Esther est choisie reine. Son cousin Mardoché découvre un complot dirigé contre le roi et il le dénonce. Le roi apprend cette action au bon moment. Toutes les circonstances de nos vies sont dirigées par Dieu à travers sa providence. Les faits mentionnés ci-haut étaient très certainement dirigés par la providence divine qui agissait en silence et en coulisses. Les événements de Suse menacèrent la continuité des projets de Dieu dans l'histoire du salut. Pour les lecteurs chrétiens, ce qui est en jeu dans le livre d'Esther n'est pas seulement la continuité de l'existence du peuple juif, mais aussi la venue du Messie rédempteur. Voyez-vous, à l'intérieur de ça, il y avait la main de Dieu qui protégeait la nation par laquelle le Messie était pour arriver. Le Seigneur, il pense plus loin que... Pense loin. Là, dans une ville lointaine, distante de centaines de kilomètres et de plusieurs siècles des événements de Bethléem, Dieu continue à diriger l'histoire, selon sa providence, pour la conduire sans interruption jusqu'à la venue de son propre Fils, qui renversera la barrière entre les Juifs et les non-Juifs. Quelques applications. Le livre d'Esther est un livre rempli de merveilles, merveilleuses leçons à méditer. Une, première, Dieu veille sur les siens providentiellement et souvent dans le secret. Deuxième leçon, Dieu est gracieux, miséricordieux et fidèle. Troisièmement, Dieu est juste, il rétribue les actions des hommes et des saints. Que son Saint-Nom soit exalté et loué à tout jamais. Amen.